La terre, elle brille, en fait. Elle est d'un bleu brillant. Elle lui.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man. One giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb, qui découvrons des terres nouvelles, qui jusqu'à présent n'étaient que des petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars. It would be the greatest adventure ever.
Voilà, on est toujours en direct sur Eldorado Radio, vous avez bien compris, c'est l'heure de retrouver Michel Favret pour sa chronique astro. Déjà, je vous souhaite la bienvenue, bien sûr, Michel, bonjour, bienvenue.
Bonjour Joël.
Alors avant que vous présentiez votre chronique et nous parler d'actu, une petite mise au point.
Oui, une petite précision pour nos auditeurs, car malgré sa diffusion le 1er avril et des informations qui pourraient leur paraître improbables ou exagérées, notamment sur les programmes spatiaux américains, mon intervention ne contient absolument aucun poisson d'avril.
Bon, voilà, c'était une mise au point, une précision. Allez, Michel, donc vous allez attaquer, façon de parler, votre 132e chronique astro et commencer par les actualités et le feuilleton du programme lunaire américain Artemis.
Alors effectivement, le déroulement du programme Artemis ressemble de plus en plus à une sitcom où les scénaristes multiplient les rebondissements pour maintenir l'attention des spectateurs. Pour nos auditeurs qui auraient raté les épisodes précédents, je vais leur faire un petit résumé, sans remonter au début de l'histoire sous George Bush père et fils, ni les aléas qu'il a connus sous les mandats d'Obama puis de Trump premier, histoire que j'avais détaillée en février. À l'époque, qui n'est pourtant pas si lointaine, la situation était assez claire. Tous les développements avaient permis le lancement réussi d'Artemis 1 le 16 novembre 2022, avec le premier tir du lanceur lourd SLS, Space Launch System, une grosse fusée comparable à la Saturn V du programme lunaire Apollo des années 1970, et plus ou moins bricolée avec des éléments recyclés des anciennes navettes spatiales. Et 4 jours plus tard, c'était la mise en orbite de la capsule Orion sans équipage autour de la Lune, vaisseau spatial dont je rappelle que la moitié, ce qu'on nomme le module de service, est fourni par l'ESA, l'Agence spatiale européenne. En février, on était sur le point de voir s'envoler la mission Artemis 2, qui était pratiquement la répétition de la même opération, mais cette fois avec un équipage de 4 astronautes à bord de la capsule, 3 Américains, dont une femme, et un Canadien. Et cette étape préparait Artemis 3, attendue pour 2027 ou peut-être 2028, qui verrait les astronautes se poser sur la Lune à bord du HLS, le Human Landing System. En principe, le vaisseau Starship de SpaceX, choisi par la NASA en 2021, mais dont la mise au point est très laborieuse avec de nombreux essais ratés ces derniers mois. Il devrait d'ailleurs être testé en orbite pour la première fois en ce mois d'avril. Malheureusement, des problèmes pendant la répétition générale des opérations de lancement du SLS, avec des fuites détectées lors du remplissage des réservoirs de carburant, puis de nouveau une fuite d'hélium lors d'une nouvelle répétition, après avoir réparé le premier problème, ont obligé à ramener la fusée dans l'immense bâtiment d'assemblage VAB, car cette dernière anomalie ne pouvait pas être corrigée directement sur le pas de tir. Pour Artemis 2, les nouvelles sont enfin bonnes, puisque le SLS surmonté de la capsule Orion est de retour sur sa plateforme de lancement depuis le 21 mars, et le 27, les astronautes sont arrivés au centre de lancement, le Kennedy Space Center en Floride. Le lancement pourrait avoir lieu dès cette nuit, à partir de 0h24, heure française. S'il n'est pas possible, par exemple en raison d'une mauvaise météo, d'autres fenêtres de tir, comme on dit, sont possibles aussi les prochains jours, du 3 au 6 avril. On a donc de bonnes chances de voir ce mois les astronautes s'envoler pour aller faire un tour de la Lune, une mission analogue à Apollo 8 de décembre 1968, il y a presque 60 ans.
Mais qu'en est-il des épisodes suivants, Artemis 3 et après ?
Alors, comme je l'avais expliqué la dernière fois, la suite a été complètement chamboulée par l'arrivée en décembre d'un nouvel administrateur à la tête de la NASA, Jared Isaacman. Je rappelle que ce milliardaire est un fervent adepte du New Space, c'est-à-dire la sous-traitance au secteur privé de parties complètes de certaines missions de la NASA, fournies clé en main par des sociétés commerciales, comme par exemple le transport des astronautes vers l'ISS assuré par SpaceX avec son propre lanceur Falcon 9 et sa propre capsule Crew Dragon. D'ailleurs, il a lui-même développé son programme spatial privé avec l'aide de son compère, si je peux dire, Elon Musk, puisque réalisé grâce au vaisseau de SpaceX. Autant dire que si l'on n'était pas dans le cadre surréaliste de l'administration Trump qui bafoue allègrement toutes les règles de droit, il y aurait matière à un énorme conflit d'intérêts pour le choix des orientations de la NASA par rapport aux missions privées et la gestion de contrats qui lient l'agence américaine à ses fournisseurs et notamment SpaceX. Lors d'une conférence de presse donnée le 27 février dernier, ces annonces ont complètement bouleversé la suite du programme. Au lieu de marquer le premier retour d'astronautes à la surface lunaire depuis Apollo, Artemis 3 n'ira plus jusqu'à la Lune, mais devient une répétition générale des manœuvres en orbite terrestre, en principe dès la mi-2027. C'était une très mauvaise surprise pour les quatre astronautes qui se sont préparés depuis des années à ce retour historique sur la Lune. Et cela met une très grosse pression sur SpaceX, qui devra démontrer la fiabilité de son Starship d'ici là pour participer à cette mission, à moins que Jared Isaacman ne mette en cause le choix de la NASA, car il semble remettre en course le concurrent Blue Origin de Jeff Bezos d'Amazon avec son atterrisseur Blue Moon, similaire au module lunaire LEM des missions Apollo, qui ne devait en principe n'intervenir que plus tard dans le programme. Et le nouvel administrateur déroulait un nouveau programme où le retour sur la Lune n'arrivait qu'avec Artemis 4, en principe début 2028, tout en annonçant une accélération de la cadence des missions avec un tir du SLS tous les 10 mois, en renonçant à une évolution majeure de son deuxième étage, étudié depuis des années par la NASA, au profit d'une solution plus expéditive en utilisant un module venant du privé. On pouvait voir dans ces annonces les stigmates du New Space avec des développements plus rapides, faisant la part belle aux acteurs privés. Mais nous n'étions pas au bout de nos surprises.
Pourquoi, Michel, et y a-t-il eu encore d'autres changements en ce mois de mars ?
Oui, de nouvelles annonces ont été faites lors d'une autre conférence de presse le 24 mars, il y a une semaine. Et elles remettent en cause un élément crucial des missions lunaires Artemis. Contrairement à la conception tout en un d'Apollo, qui emportait en un lancement tous les dispositifs nécessaires à la mission, la capsule avec l'équipage et le module lunaire, la NASA avait séparé les éléments pour Artemis, en prévoyant de placer en orbite lunaire la Lunar Gateway, une passerelle permettant aux astronautes de passer de leur capsule Orion à l'atterrisseur HLS qui les attendait et devenait une sorte de navette entre la station et la surface lunaire. Accessoirement, cette Lunar Gateway pouvait aussi être considérée comme succédant à l'ISS, la Station Spatiale Internationale en orbite terrestre, qui devrait être abandonnée au début des années 2030. Lors de la présentation de sa nouvelle feuille de route du programme Artemis, Jared Isaacman supprime purement et simplement la Lunar Gateway, sur laquelle la NASA travaille depuis des années, sans se soucier des efforts consentis aussi par ses partenaires, notamment l'ESA, qui développait l'un des modules, celui destiné à l'habitation, en coopération avec la JAXA, l'agence spatiale japonaise. D'ailleurs, lors de sa conférence de presse du 24 mars, il n'a évoqué l'Europe qu'une fois, pour confirmer que la NASA assurerait l'envoi de notre rover Rosalind Franklin vers Mars en octobre 2028, mais pas du tout dans le cadre du programme lunaire, contrairement aux agences spatiales canadiennes ou japonaises. Il faut peut-être y voir une conséquence du rafraîchissement des relations diplomatiques entre États-Unis et l'Europe. Pour ce qui concerne Artemis, Isaacman veut réorienter les crédits utilisés pour développer la Lunar Gateway vers un projet de base lunaire permanente au pôle sud de la Lune pour permettre des séjours de longue durée, projet pour lequel il consacrerait 20 milliards de dollars sur les 7 prochaines années. Son plan s'articulerait en 3 phases. La première, nécessitant 25 lancements sans équipage d'ici 2029, doit tester tout le matériel nécessaire à l'établissement de la base, rover, drone, système de navigation et de communication. La deuxième, de 2029 à 2032, verrait les premiers séjours d'astronautes et l'installation de moyens de production d'énergie solaire et nucléaire, les habitats et un dispositif de communication stable avec la Terre. Et la troisième, à partir de 2032, inaugurerait une présence humaine permanente sur la Lune. On peut voir dans cette volonté un autre aspect du New Space, qui est l'exploitation industrielle des corps célestes, puisque l'occupation permanente d'une base lunaire ouvre la voie à l'extraction de ressources énergétiques, notamment l'hélium-3, voire de certains minerais comme des terres rares qui constituent actuellement un enjeu géopolitique majeur avec une très forte hégémonie chinoise. Pour être complet, je dois aussi dire que Jared Isaacman voit encore plus loin avec la conquête de Mars, obsession aussi d'Elon Musk, pour laquelle il a annoncé vouloir utiliser un nouveau système de propulsion nucléaire ou moteur à plasma qui n'a pour le moment qu'été expérimenté par l'ESA pour son satellite lunaire SMART 1 en 2003 afin de rejoindre la planète rouge en 3 mois au lieu de 6 actuellement, ce qui simplifierait dans le futur l'envoi d'une capsule habitée. La mission robotique baptisée Space Reactor 1 Freedom ou SR1 pourrait dès septembre 2028 emporter 3 aérobots, des drones analogues au petit hélicoptère Ingenuity qui accompagnait le rover Perseverance sur Mars en 2020 et qui a donné entière satisfaction en fonctionnant mieux et bien plus longtemps que prévu. L'objectif de SR1, outre le test du moteur à plasma, serait une reconnaissance aérienne de Mars pour identifier des sites propices aux futures missions humaines. Encore la dérive du New Space, qui visiblement néglige tous les aspects scientifiques de l'exploration spatiale. Je rappelle que la mission MSR, Mars Sample Return, qui devait rapporter vers 2030 des échantillons martiens sur Terre, a été purement et simplement rayée des projets de la NASA, là encore sans aucune considération pour l'ESA, qui avait travaillé sur sa moitié de la mission, l'engin de retour vers la Terre. Au final, toutes ces annonces me paraissent plutôt négatives, et on peut avoir légitimement le sentiment qu'elles relèvent d'une volonté d'accélération, pour ne pas dire d'agitation, caractéristique de l'administration Trump pour obtenir au plus vite des résultats tangibles, impérativement avant la fin du mandat du président mégalomane dont se sont malheureusement dotés les États-Unis l'an dernier.
Alors on est toujours dans l'actu avec vous Michel bien sûr, et on a découvert les briques de l'ADN sur l'astéroïde Ryugu, je ne sais pas si je prononce Ryugu bien. Parfait, bon accent, merci Michel.
Après cette longue séquence sur Artemis, il ne me restait pas beaucoup de temps pour évoquer une autre actualité spatiale et j'ai choisi cette information concernant notre recherche frénétique de vie dans le système solaire. Dans un article publié le 16 mars dans la revue Nature Astronomy, l'équipe japonaise dirigée par Toshiki Koga a donné les résultats de leur étude des échantillons de l'astéroïde Ryugu, prélevés en 2019 par la sonde Hayabusa 2 et rapportés sur Terre en décembre 2020, dans une capsule les protégeant de toute contamination. Et dans les deux fragments extraterrestres près de quelques milligrammes qui leur avaient été confiés, ils ont trouvé des molécules prébiotiques, c'est-à-dire précurseurs à la vie, l'adénine, la cytosine, la thymine et la guanine, aux initiales A, C, T et G, qui se retrouvent dans la description des très longues molécules d'ADN dont elles sont les éléments constitutifs, comme aussi pour l'ARN. Ce n'est pas la première fois qu'on trouve ces molécules dans du matériel d'origine extraterrestre, car elles sont présentes aussi dans la météorite d'Orgueil, tombée près de Montauban en 1864, ou celle de Murchison, tombée en Australie en 1969. Mais dans ces cas, on peut soupçonner des contaminations par l'environnement terrestre et les manipulations, ce qui n'est pas le cas des échantillons de Ryugu, étudiés dans des conditions très strictes en salle blanche, comme ceux de Bennu, rapportés par Osiris Rex de la NASA en 2023, où on les a aussi détectés. Ces découvertes confirment que les molécules probiotiques sont produites par la lente chimie spatiale qui opère à la surface des astéroïdes et des comètes, ouvrant la voie à la théorie selon laquelle aurait été ensemencé par ces petits corps au début de sa formation, avant de produire la vie proprement dite. Mais cela n'est pas tout à fait aussi simple, car d'une part, on ne connaît pas les processus qui vont de ces éléments de base à la construction d'une molécule d'ADN ou d'ARN, pouvant conduire à une cellule vivante, et certains chercheurs pensent que ces molécules fondamentales du vivant pourraient plus facilement se former à partir de molécules plus simples. D'autre part, rien n'exclut que des processus physico-chimiques purement terrestres n'aient pas aussi synthétisé ces molécules probiotiques sans recourir à une origine extraterrestre. Donc cette annonce à propos de Ryugu, bien que spectaculaire, ne résout pas l'énigme de l'apparition de la vie sur Terre ou ailleurs dans l'univers, et il reste encore beaucoup de travail pour résoudre cette question. Et puisque je viens d'évoquer les astéroïdes, ces nombreux petits corps errants dans le système solaire, en menaçant parfois de frapper la Terre, on peut revenir sur la mission DART de la NASA, qui a percuté le petit astéroïde Dimorphos, du duo Didymos-Dimorphos, le 26 septembre 2022, pour démontrer la possibilité d'utiliser cette technique afin de dévier un géocroiseur qui menacerait de nous toucher. Le résultat de ce test doit être observé sur place par la mission européenne ERA, lancée en octobre 2024, qui doit atteindre son objectif en décembre. Mais quelques jours après l'impact de DART, des mesures effectuées depuis la Terre avaient montré que la période de révolution de Dimorphos autour de Didymos avait été sensiblement modifiée, passant de 11h55 à 11h22, indiquant une réussite de l'opération qui avait dévié le petit astéroïde, le faisant se rapprocher de son compagnon et donc orbiter plus vite, selon les lois de Kepler. Mais d'autres observations menées ces derniers mois par des astronomes professionnels et la contribution d'amateurs, consistant à observer le passage de ces astéroïdes devant des étoiles, ce qu'on appelle des occultations, ont permis de caractériser très précisément leur orbite autour du Soleil. Et elles ont mis en évidence une réduction d'environ 0,15 secondes de leur période. Cela peut paraître minuscule, mais je rappelle qu'il s'agissait juste d'un test mené avec un petit impacteur de 550 kg sur le couple d'une masse estimée à plus de 500 millions de tonnes au total. Sur 3 ans, cela correspond à une déviation de plusieurs centaines de mètres. Si un géocroiseur nous menaçait, nous utiliserions un impacteur bien plus gros, lancé à une vitesse bien plus grande, et même si la déviation serait probablement faible, si elle est exécutée des mois avant une collision prévue avec la Terre, elle pourrait être suffisante pour que la menace ne fasse que nous frôler, car notre planète n'est pas si grosse à l'échelle du système solaire.
Vous écoutez toujours les programmes d'Eau de Radio. C'est notre journal en ce mercredi 1er avril avec Michel Favré pour sa 132e chronique astro. Et là, Michel, vous allez aborder la deuxième partie de votre chronique avec le thème du mois, les aurores polaires.
Alors, j'ai repris ce sujet que j'avais déjà traité il y a 2 ans à mon retour de Finlande en raison de mon actualité personnelle, puisque ces dernières semaines, j'ai passé une douzaine de jours au nord de la Norvège, plus précisément de Tromsø aux îles Lofoten, en espérant pouvoir en observer, ce que j'ai pu faire 3 soirs, malgré une météo globalement plutôt médiocre. Il faut dire qu'en mars, là-bas, c'est la fonte des neiges de l'hiver et un climat plutôt humide, un peu comme nos traditionnels giboulets de mars, et une nuit, on a même eu droit à une tempête. Au sens strict, les aurores polaires sont un phénomène atmosphérique, mais leur origine est tellement liée à des processus spatiaux qu'elles ont toute leur place dans notre chronique. Pour commencer, une petite précision de vocabulaire, car on parle généralement d'aurore boréale, mais cette expression ne désigne exactement que le phénomène lorsqu'il se produit dans les régions polaires nord, alors qu'il existe son exacte symétrique au sud avec les aurores australes, les deux étant regroupés sous le terme d'aurore polaire. On connaît ces lueurs étranges depuis l'Antiquité, puisqu'il est par exemple évoqué par Pline l'Ancien au 1er siècle de notre ère, mais c'était à l'occasion d'une manifestation tout à fait exceptionnelle dans le ciel de Rome. Il est évident que les peuples du Nord, où elles se produisent le plus souvent et le plus intensément, les ont observées de tout temps, et comme tout phénomène inexplicable, on leur a trouvé des origines légendaires. Pour les Samis, appelés à tort les Lapons, ce serait un renard polaire qui, en courant dans les vastes étendues de taïga, soulèverait de la neige avec sa queue. Les Inuits du Groenland y voyaient des âmes des morts, alors qu'une tribu du Nunavut les attribuait à des morses, de nombreuses autres légendes nordiques faisant d'ailleurs référence à toutes sortes d'animaux, rennes, phoques ou baleines. Pour les Vikings, c'était le reflet du soleil ou de la lune sur les armures des Valkyries. Mais avant d'expliquer leur origine par la science moderne, il faut rappeler qu'avant les photographies révélant des couleurs éclatantes, vertes, rouges et mauves, à l'œil nu, elles ne se manifestent que comme des sortes de lueurs pâles, d'un gris légèrement verdâtre, agitées de mouvements lents, incessants et imprévisibles, presque hypnotiques tellement leur vision est fascinante.
Mais comment explique-t-on aujourd'hui ce phénomène étrange ?
Ce qu'on sait aujourd'hui trouve sa racine dans les travaux du physicien norvégien Christian Birkeland, à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Il a étudié le comportement des particules solaires dans un champ magnétique, notamment en réalisant une expérience avec un dispositif appelé Terella, encore utilisé aujourd'hui pour démontrer la physique des aurores. Elle est constituée d'une cathode envoyant un flux d'électrons, comme dans les anciens écrans de PC ou les téléviseurs, dans une chambre à vide où se trouve une boule de fer aimantée figurant la Terre, sur laquelle on observe la formation de 2 couronnes lumineuses autour de ses pôles. Pour la petite histoire, il n'arrivait pas à financer ses recherches et c'est en mettant au point un procédé de fixation de l'azote pour produire des engrais qu'il a fait fortune et pu s'autofinancer. Son élève Karl Stormer a poursuivi ses travaux sur les aurores dans les années 1950. À l'origine des aurores, il y a notre étoile, le Soleil. Je rappelle qu'il est immense par rapport à la Terre, puisqu'il pourrait la contenir environ 1 300 000 fois. Mais comme il s'agit d'une sphère gazeuse, sa masse est un peu moins énorme, avec seulement, si je peux dire, 330 000 fois celle de la Terre. Il est principalement constitué d'hydrogène, l'élément le plus répandu dans l'univers, à 92%, et d'un peu moins de 8% d'hélium, tous les éléments plus lourds représentant moins de 1/1000 de sa masse. Comme toutes les étoiles, sa masse énorme produit en son cœur une pression gigantesque et des températures si élevées, dans les 15 millions de degrés, contre environ 6000 degrés à sa surface, que peuvent s'y produire des réactions de fusion nucléaire, ce qu'on essaie de reproduire sur Terre, comme dans le futur réacteur expérimental international ITER en construction à Cadarache. Les noyaux d'hydrogène fusionnent en noyaux d'hélium, ce qui, selon la célèbre équation d'Einstein E égale mc2, dégage une énergie considérable en raison d'une perte de masse de plus de 4 millions de tonnes par seconde. Cette énergie est émise sous forme de rayonnement, donc des photons, qui sortent du cœur pour traverser ensuite une épaisse couche dite radiative, où ce sont les photons qui transportent cette énergie. Mais la densité de matière y est si forte que par des processus d'absorption et réémission incessants, il leur faut un temps considérable pour la traverser. On a calculé que ça devait prendre dans les 80 à 100 000 ans. Ensuite, quand la densité est moins forte, elle traverse la couche convective, où ce sont principalement les mouvements de matière, la convection, qui transportent la chaleur. C'est comme dans une casserole d'eau que l'on met à chauffer, où l'eau réchauffée au fond, plus légère en raison de sa dilatation, monte dans l'eau plus froide au-dessus d'elle, jusqu'à la surface, et quand l'eau bout, la production de bulles de vapeur qui viennent éclater à la surface. Vu la taille du Soleil, ce parcours est très lent, et on estime qu'il faut presque 1 million d'années pour que l'énergie produite au cœur du Soleil atteigne sa surface. Et dire que le photon de lumière ne mettra ensuite que 8 minutes pour atteindre la Terre 20 fois plus lointaine. Mais pour ce qui concerne les aurores, ce n'est pas la lumière émise par le Soleil qui nous intéresse, mais les particules qu'il envoie tout autour de lui et qu'on appelle vent solaire. Si on repense aux bulles qui viennent éclater à la surface de l'eau bouillante, on pourrait dire qu'il se produit quelque chose de similaire à la surface du Soleil, même si les mécanismes en sont bien plus complexes, car ils mettent en jeu du plasma, donc des particules électriquement chargées, protons et électrons principalement, se déplaçant dans l'intense champ magnétique du Soleil et le modifiant en retour. C'est ce qui donne souvent cette forme de boucle aux protubérances qu'on peut observer à la surface du Soleil.
Et le champ magnétique de la Terre joue aussi un rôle dans la formation des aurores.
Effectivement, quand une éruption solaire est forte, elle éjecte une masse de plasma dans l'espace. On parle d'EMC, éjection de masse coronale, qui a une vitesse très grande, de l'ordre de 400 km à la seconde, ce qui la fait atteindre la Terre en environ 2 à 3 jours, quand on a la malchance qu'elle vienne dans notre direction, ou plutôt la chance si on veut observer des aurores. Cela explique que l'on sache prédire environ 3 jours à l'avance une forte activité aurorale. Sur une planète sans défense comme Mars, l'arrivée de telles bouffées de particules solaires est une catastrophe, car en pénétrant dans l'atmosphère, elles en éjectent les molécules dans l'espace, et au fur et à mesure de cette sorte d'érosion, la planète finit par perdre progressivement son atmosphère, ce qui est arrivé pour Mars et Mercure. Mais heureusement pour nous, notre Terre possède un bouclier la protégeant contre ces agressions avec son champ magnétique qui trouve son origine dans le noyau de fer en rotation au centre de notre planète. Il dévie les particules solaires chargées électriquement qui poursuivent leur trajectoire sans pénétrer dans notre atmosphère, du moins pour la plupart. Car les plus énergétiques parviennent quand même à se frayer un passage dans le bouclier magnétique terrestre où il est le plus faible, en longeant les lignes de champ qui forment comme deux entonnoirs autour des pôles, environ au niveau des cercles polaires vers 70 degrés de latitude. Sauf que ces couronnes aurorales ne sont pas centrées sur les pôles géographiques, mais sur les pôles magnétiques de notre planète. Et c'est quand ces particules pénètrent dans les hautes couches de l'atmosphère que les aurores apparaissent. Théoriquement, certaines rentrent directement en arrivant du Soleil, mais comme c'est du côté où il fait jour, il est impossible de voir les aurores qu'elles produisent. Heureusement, il y en a aussi qui entrent du côté nuit, par une espèce d'effet rebond, qu'on appelle reconnexion des lignes du champ magnétique et qui les fait revenir vers la Terre qu'elles avaient évitées lors de leur premier passage, ce qui nous donne les belles aurores nocturnes qu'on peut observer. Cette origine solaire des aurores explique pourquoi il est plus favorable d'essayer de les observer durant les périodes de forte activité solaire, qui atteint son maximum selon un cycle de 11 ans environ, le dernier s'étant produit à l'automne 2024 d'après les relevés. Avec les observations des satellites solaires permettant de connaître les éruptions environ 3 jours avant qu'elles n'atteignent la Terre, des satellites mesurant le vent solaire environ 1 heure avant son arrivée, et des stations au sol mesurant les perturbations qu'il cause au champ magnétique terrestre, on peut prédire dans une certaine mesure l'intensité des aurores chaque nuit, et il existe des sites en ligne, notamment SpaceWeather, hein, littéralement la météo spatiale, du NOAA, N-O-A-A, l'agence américaine étudiant l'atmosphère et les océans, ou même des applications pour smartphone qui permettent de connaître les indicateurs annonciateurs d'une forte activité aurorale, notamment un indice magnétique appelé KP, entre 0 et 9, qui était vers 4 lors de nos soirées en Norvège, mais qu'il faudrait voir monter plutôt vers 7-8 pour voir des aurores depuis la France, comme le 10 mai 2024, puis à nouveau en octobre, en janvier 2025 et encore en janvier dernier.
Alors comment se fait-il que l'on puisse observer des aurores dans nos régions, alors que ce sont plutôt des phénomènes des zones polaires ?
Alors si on revient à leur origine, les éjections de masse coronale solaire, on peut comprendre que plus l'éjection est importante et ou rapide, plus les particules solaires pourront bousculer plus fort le champ magnétique terrestre et pénétrer plus massivement et profondément dans notre atmosphère, donc produire une couronne aurorale plus large, descendant à des latitudes plus basses. La nuit du 2024 était exceptionnelle en France car au lieu de vagues lueurs rouges, comme c'est plus souvent le cas, on pouvait distinguer des structures et un peu de couleur verte. Mais l'histoire nous donne des événements bien plus spectaculaires. J'ai déjà évoqué celle observée par Pline l'Ancien dans le ciel de Rome au 1er siècle. En 1770, on en a observé dans toute l'Asie de l'Est du 16 au 18 septembre. Mais le cas le plus extrême connu a eu lieu en 1859, où elles ont pu être vues jusqu'à Singapour et Honolulu. C'était lors de ce qu'on appelle l'événement de Carrington, du nom de l'astronome anglais, qui a observé le 1er septembre 1859 une éruption solaire intense qu'il a décrit comme un éclair violent de 10 minutes, alors qu'il étudiait les taches solaires. Seulement 17 heures plus tard, car l'éjection s'était visiblement faite à très grande vitesse, dans la nuit du 1er au 2 septembre, les aurores illuminaient tout le ciel de l'hémisphère nord. L'arrivée des particules solaires en masse dans notre atmosphère a également perturbé les dispositifs électriques, et notamment à l'époque le télégraphe. On dit que certains opérateurs auraient reçu des décharges électriques. On estime qu'un tel événement peut se produire environ tous les 150 ans en moyenne, et il est clair qu'avec notre dépendance à l'électricité, aux réseaux et aux communications radio, les conséquences seraient bien plus importantes de nos jours. Le 13 mars 1989, une tempête solaire moins intense, survenue 2 jours plus tôt, a obligé à dérouter les avions et a provoqué une panne de la distribution d'électricité au Québec pendant 9 heures, car les variations de tension induites dans les lignes haute tension déclenchaient les dispositifs de protection du réseau. Mais je ne voudrais pas inutilement inquiéter nos auditeurs, car ces événements sont très rares. Et quand les aurores se manifestent à nos latitudes, il ne s'agit que de vagues lueurs rouges dans le ciel.
À ce propos, d'où viennent les différentes couleurs qu'on peut voir, du moins sur les photos ?
Alors c'est une question d'altitude à laquelle se produisent les aurores, toujours dans la très haute atmosphère, généralement la thermosphère à plus de 80 km. En pénétrant dans l'atmosphère, les particules solaires viennent heurter les atomes et molécules qui la composent, ce qui les excite, c'est-à-dire qui fait passer leurs électrons à un autre niveau d'énergie qu'au repos. Ensuite, l'atome se désexcite en émettant une lumière d'une longueur d'onde bien spécifique. Cela produit donc des couleurs bien précises en fonction des éléments rencontrés lors de la pénétration plus ou moins bas dans l'atmosphère. Les belles draperies vertes observées dans les régions polaires correspondent à une émission caractéristique des atomes d'oxygène présents entre 120 et 180 km d'altitude. Alors que plus haut, où ces atomes sont plus rares, les conditions produisent une émission rouge de l'oxygène vers 200 km. Cela explique pourquoi les aurores sont perçues comme des lueurs rougeâtres quand elles sont vues à des plus basses latitudes, comme en France, car de là, on ne peut en voir que la partie supérieure. Enfin, pour les particules pénétrant plus profondément dans l'atmosphère, en dessous de 100 km, Elles vont percuter des molécules, surtout d'azote, car trois fois plus nombreuses que celles d'oxygène, produisant l'émission d'une couleur pourpre-violette. Ces formes colorées, parfois très intensément, ne se révèlent malheureusement qu'à la photo. Mais même si nos yeux ne sont capables de distinguer que des lueurs gris-verdâtres, je conseille à tous nos auditeurs qui en auraient l'occasion d'aller les admirer, tant ce spectacle mouvant est étrange et fascinant.
Allez, vous êtes toujours à l'écoute des programmes d'Odo Radio, bien sûr. C'est notre journal en ce mercredi 1er avril avec Michel Favré pour sa 132e chronique astro. Et là, Michel, vous allez aborder donc la troisième partie de votre chronique et nous parler du ciel du mois.
Alors, comme chaque mois, je renvoie nos auditeurs vers la rubrique ciel du mois de la section astronomie de notre site web. Je rappelle www.constellationsetgalaxies.org pour voir les cartes du ciel, difficiles à montrer à la radio, et avoir plus de détails. Je la mettrai à jour pour avril, je pense cet après-midi ou demain. Avec l'équinoxe de printemps du 20 mars, où le soleil était présent exactement 12 heures dans le ciel, donc une nuit d'environ 10 heures, si on retire aube et crépuscule, nuit qui réduit encore jour après jour, et surtout le passage à l'heure d'été le week-end dernier, l'observation du ciel ne peut se faire que bien plus tard qu'en hiver. En ce moment, le soleil se couche vers 20h30, la nuit arrive vers 21h30 et le ciel bien noir vers 22h. Ce sera environ une demi-heure plus tard fin avril avec le coucher vers 21h et la nuit à 22h15. Comme nous entrons dans le printemps, en début nuit, le ciel est partagé en deux avec à l'ouest les constellations de l'hiver en train d'aller se coucher et à l'est celles du printemps qui montent progressivement au sud. Pour l'hiver, c'est bien sûr Orion, bien reconnaissable à sa figure évoquant une silhouette humaine. La figure centrale de la saison, entourée du taureau, du cocher, des gémeaux et des petits et grands chiens, dont les étoiles les plus brillantes forment comme un grand G majuscule, dont la barre est formée par les épaules d'Orion. Cette figure est un peu brouillée cette année par la présence de la très brillante Jupiter située dans les gémeaux. Pour les constellations du printemps, il y a deux repères. D'abord, la figure centrale du lion, située sous les pattes de la grande ours. On le reconnaît facilement aux étoiles de sa crinière et de son poitrail qui dessinent une faucille, ou pour ceux qui ne connaissent pas cet outil, un point d'interrogation inversé droite-gauche. Pour trouver deux autres constellations majeures de la saison, il suffit de prolonger l'arc de la queue de la grande ours, ou la queue de la grande casserole, pour ceux qui ne connaissent pas tout le dessin de la constellation, et l'on tombe sur une étoile très brillante et légèrement jaunâtre. C'est Arcturus, la quatrième étoile la plus brillante de tout le ciel, hémisphère sud compris. Mais pour nous au nord, c'est la deuxième, après Sirius du grand chien, et en ce moment, on peut les voir toutes les deux ensemble dans le ciel. Arcturus est le montreur d'ours, car elle est censée faire avancer la grande ours devant elle. C'est l'étoile principale du Bouvier, constellation censée faire avancer les bœufs tirant la charrue que les Romains voyaient à la place de la grande ours. Dans le ciel, elle a la forme d'un cornet de glace, dont Arcturus serait la pointe. Si on prolonge encore plus loin l'arc de la queue de la grande ours, on trouve une autre étoile brillante, Spica, l'étoile principale de la constellation de la Vierge, qui a grosso modo la forme d'un grand Y dans le ciel. Cette Vierge n'a rien à voir avec la Sainte Vierge des chrétiens, car elle se réfère à une déesse des moissons, Cérès pour les Romains ou Déméter dans la mythologie grecque, d'où le nom de Spica, c'est-à-dire l'épi, pour sa principale étoile. La Voie lactée étant peu présente dans le ciel en cette saison, notre vision porte plus loin. Et c'est une période favorable à l'observation de lointaines galaxies, notamment sous le Lion et dans la région entre la queue du Lion et la Vierge. À la fin du mois, Orion sera sur le point de se coucher en début de nuit, alors que le Lion sera déjà haut dans le ciel plein sud. Côté planète, Jupiter est sans conteste la vedette du ciel, car elle est haute en début de nuit, mais elle a déjà franchi le méridien sud pour entamer sa descente vers l'ouest. Pour l'observer dans de bonnes conditions, donc le plus haut possible, il vaut mieux le faire en début de nuit ou en début de mois. Je rappelle à nos auditeurs que dans une simple paire de jumelles, on peut voir ses quatre principaux satellites, dont les positions changent en quelques dizaines de minutes. On les qualifie de galiléens, car ils ont été découverts en 1609 par Galilée, grâce à sa petite lunette astronomique, un instrument bien moins puissant et précis que nos jumelles actuelles. Vénus nous est revenue progressivement dans les lueurs du crépuscule depuis la mi-mars. En ce moment, elle se couche moins de 2 heures après le soleil, vers 22h15, Mais comme elle s'en écarte de plus en plus, à la fin du mois, ce sera vers 23h30, 2h30 après l'astre du jour. Mercure, Mars et Saturne ne sont pas observables ce mois-ci. Comme chaque mois, la Lune produira une série de conjonctions en s'approchant des planètes, en commençant par le samedi 18, où un très fin croissant précédera la très brillante Vénus pour se coucher dans les lueurs du crépuscule. Puis le mercredi 22, où le gros croissant de Lune accompagnera la brillante Jupiter dans le ciel. Entre-temps, le dimanche 19, un fin croissant se sera approché de l'amas des Pléiades, que Vénus approchera à son tour le lendemain, jeudi 23. Enfin, pour être complet, je signale que la première comète découverte cette année, C2026-1MAPS, atteint son périhélie samedi, le 4 avril. C'est le point de son orbite le plus proche du Soleil, moins de 1 million de kilomètres pour celle-ci, c'est-à-dire 60 fois plus près que Mercure, ou encore la moitié de la distance Terre-Lune. Elle fait partie du groupe de Kreutz, un ensemble de comètes ayant des trajectoires similaires, car elle serait issue d'un gros noyau cométaire qui se serait disloqué il y a plusieurs siècles lors d'un passage trop proche du Soleil, selon la théorie émise par l'astronome allemand Heinrich Kreutz en 1888, d'où leur nom. Malheureusement, elles ont la fâcheuse tendance à passer si près du Soleil qu'elles font pchit, si je peux dire, se désintégrant sous l'effet de la chaleur et des forces de marée. C'est le cas de C2024-S1 Atlas qu'on attendait fin octobre 2024. Quand elles survivent à leur passage au périhélie, elles peuvent offrir un beau spectacle, comme C2011-W3 Lovejoy en 2011. On croise donc les doigts pour que ce soit le cas de C2026-A1, car c'est proche du périhélie que l'activité cométaire est la plus forte, accroissant la queue qui est aussi mieux éclairée par le Soleil. Même si une observation depuis un site plus au sud que notre région, voire carrément dans l'hémisphère sud, serait préférable, elle pourrait devenir visible pour nous en début de nuit à partir du vendredi 10 avril, mais très basse à l'ouest. Elle montera de plus en plus dans le ciel jour après jour, mais en même temps, elle s'éloignera de la Terre, ce qui la rendra plus petite et moins lumineuse. Elle ne devrait pas être observable à l'œil nu, mais peut-être dans une paire de jumelles les premiers jours. À noter qu'on pourra assister à son passage près du Soleil, voire à son éventuelle désintégration, en allant regarder les images de l'observatoire solaire SOHO diffusé sur son site web, et plus particulièrement son instrument LASCO C2, qui permet d'observer la proximité du Soleil en masquant celui-ci, un peu comme une éclipse artificielle. Elle doit traverser son champ samedi à partir de 3h51, disparaître derrière le Soleil de 13h50 à 15h20, puis passer devant entre 15h55 et 17h20. Je mettrai sur la page Ciel du mois de mon site web toutes ces informations et la carte des positions de la comète après le 10 avril, du moins si elle survit. Enfin, pour conclure, sauf imprévu, notre prochaine chronique devrait avoir lieu le mercredi 29 avril, nous recalant en fin de mois comme c'est l'habitude.
Voilà, bien sûr, on se retrouve le mercredi 29 avril prochain, mais je crois, Michel, que vous vouliez ajouter quelque chose à cette chronique.
Oui, alors en sortant de mon rôle d'astronome amateur décryptant les annonces scientifiques ou les développements de l'exploration spatiale pour nos auditeurs, je prendrai ma casquette d'amateur de science-fiction pour parler d'un film que j'ai vu le week-end dernier. Il s'agit de « Projet Dernière Chance » avec l'acteur canadien Ryan Gosling, qui avait déjà endossé le rôle de Neil Armstrong dans Le Premier Homme, sorti en 2018. Sans divulgâcher, comme on dit, le scénario, puisque ces éléments sont bien visibles dans sa bande-annonce, il est question d'une catastrophe menaçant la Terre, d'un voyage spatial et de la rencontre avec une entité extraterrestre. Je le conseille à nos auditeurs qui hésiteraient à aller le voir, car personnellement, j'ai apprécié une histoire crédible, notamment au niveau du voyage spatial, avec la longue durée et les problèmes de gravité, des effets spéciaux réussis, notamment concernant l'extraterrestre, que les réalisateurs ont souhaité représenter avec des marionnettes animatroniques plutôt que le simuler par des effets numériques. Néanmoins, le film ne se prend pas trop au sérieux, avec pas mal d'humour, mais aussi d'émotion, et les cinéphiles, notamment amateurs de SF, y verront de nombreux clins d'œil à d'autres films, comme 2001, l'Odyssée de l'espace, Seul sur Mars, Premier Contact ou Gravity, et sans doute que j'en ai raté d'autres. Donc en résumé, un bon film à voir à mon avis.
Voilà, vous avez bien fait de rajouter. Hein. Bien sûr, ça donne de belles infos. Michel, toujours ravi hein, de cette passion, cette implication, ce travail de préparation des chroniques. Alors, on le rappelle, bien sûr, cette chronique va retrouver lieu et place sur le site considérationsetgalaxies.org. On se voit donc le 29 avril prochain.
En principe, s'il n'y a pas d'imprévu d'ici là.
Bon,